Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Maud Laprise et j'espère que vous allez bien. Vous écoutez aujourd'hui l'épisode numéro 2 de la 5e saison de Versus, le balado de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entourée de Claudia Fortin.
Bonjour Maud.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Andréane Malaquette, professeure adjointe à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Alors, d'où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Versus. Donc, de retour à Versus, comme mentionné, aujourd'hui, nous recevons professeur Andréane Malaquette. Claudia, est-ce que ça serait possible de nous expliquer un petit peu c'est qui qu'on reçoit aujourd'hui?
Oui, certainement. Donc, pour faire une courte biographie, en fait, pour un peu cerner notre invité, elle a complété son baccalauréat, sa maîtrise et son doctorat à l'Université de Montréal. Andréane Malaquette est professeure adjointe à l'Université de Sherbrooke depuis 2019, en plus d'être actuellement directrice de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Elle est également chercheure au sein du partenariat de recherche Séparation parentale, recomposition familiale. Ses travaux se concentrent sur le droit de la famille et le droit des successions. Sa thèse de doctorat portant sur la reconnaissance de la vocation successorale ab intesta du conjoint de fait survivant s'est d'ailleurs valu en 2020 le prix pour la meilleure thèse de doctorat en droit privé de l'association Henri Capitan, des Amis de la culture juridique française, section québécoise. Mais Maud, aujourd'hui, plus précisément, on va parler de la réforme en droit de la famille. En 2021, le ministre de la Justice a déposé le projet de loi 2 portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droit de la personnalité et d'état civil, de la personnalité, pardon. À la suite de ce dépôt, fut organisé le colloque « Réforme du droit de la famille, quelle filiation et quel droit pour les enfants aujourd'hui » qui a lieu le 25 mai dernier au Centre judiciaire Jean Mélenchon, à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. En plus d'avoir assuré la direction scientifique du colloque avec le professeur Joanne G. Clouet de l'Université de Montréal, professeur Malaquette y a présenté la conférence « La filiation en besoin d'assistance, procréation assistée et gestation pour autrui en droit nouveau » qui va être aujourd'hui, Maud, le sujet de l'émission.
Super. Donc, professeur Malaquette, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de vous joindre à nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir. Bonjour.
Bonjour. D'entrée de jeu, est-ce que ça serait possible de nous expliquer pourquoi une telle réforme en droit de la famille était nécessaire?
Ben, en fait, si on remonte au contexte, là, ça fait de nombreuses années là, qu'une réforme du droit de la famille est attendue par les experts du milieu. La dernière grande réforme fondamentale en droit de la famille remonte à 1980 avec l'entrée en vigueur des dispositions du Code civil du Québec, du livre 2 de la famille. Et donc, oui, il y a eu certaines modifications par la suite qui ont été ajoutées, entre autres en 1989 avec le patrimoine familial et en 2002 avec un nouveau cadre juridique sur la procréation assistée. Mais de façon générale, le droit de la famille est vieux d'une quarantaine d'années au Québec. Donc, inutile de vous dire que depuis 1980, les modèles conjugaux et familiaux ont évolué. Les besoins des familles du 21e siècle sont bien différents de celles de l'époque. Et donc, une réforme, évidemment, est depuis plusieurs années rendue nécessaire et attendue. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là qu'au début des années 2010, une cause a été portée devant les tribunaux, cause qui a donné lieu à l'arrêt célèbre de la Cour suprême du Canada en 2013 dans l'affaire Éric contre Lola. Vous vous souvenez probablement qu'à cette époque, Lola, conjointe de fait d'Éric, ex-conjointe de fait, mère de ses trois enfants, requérait l'application des dispositions du Code civil sur les effets du mariage, donc les mesures de protection que sont notamment le patrimoine familial, le régime matrimonial, l'obligation alimentaire. Et pour ce faire, puisque ça ne s'applique pas au conjoint de fait, elle a attaqué la constitutionnalité, la validité, donc des dispositions contenues au Code civil, en en avançant que l'exclusion des conjoints de fait du champ d'application de ces mesures-là était contre le droit à l'égalité et donc portait discrimination. Donc, la cause est montée jusqu'en Cour suprême du Canada et en 2013, la Cour a rendu un jugement extrêmement divisé à 5 contre 4. Maud, vous vous rappelez peut-être de ça. Et en fait, 5 juges ont conclu en l'existence d'une discrimination, 4 en l'adéquation du cadre juridique québécois. Et c'est la juge en chef de l'époque, McLaughlin, qui a utilisé l'article 1 de la Charte pour sauver le régime législatif québécois. Donc, on comprend qu'à la suite de ça, là, c'était un moyen message de la Cour suprême du Canada aux législateurs québécois afin qu'ils se questionnent et qu'ils entament une réflexion sur la nécessité de revoir le droit de la famille. Et c'est ce qui a été fait. Hein. À l'époque, c'était le gouvernement de Pauline Marois qui était en place et le ministre de la Justice de l'époque, Bertrand Saint-Arnaud, qui est aujourd'hui juge, a mis sur pied le comité consultatif sur le droit de la famille, comité composé d'experts là, du milieu juridique, du milieu psychosocial aussi, présidé par le professeur Alain Roy, là, qui est un spécialiste de droit de la famille à l'Université de Montréal. Et donc, le comité a travaillé pendant un peu plus de 2 ans sur un rapport là, très étoffé qui a été déposé en 2015, qui fait à peu près 800 pages, qui contient 82 recommandations sur la réforme du droit de la famille. Donc, on s'attendait, tout ça pour vous dire qu'on s'attendait, l'histoire est longue, là, mais on s'attendait à la suite du dépôt de ce rapport en 2015 que, justement, le gouvernement prenne la balle au bon et entame une réflexion et une réforme du droit de la famille. Ça n'a pas été fait. Il a fallu attendre l'arrivée en poste des caquistes de François Legault pour qu'un ministre de la Justice s'intéresse à la réforme. Et finalement, bon, avec la pandémie et tout ce qui s'est passé, vous le savez comme moi, finalement, le projet de loi qu'il faut saluer a été déposé en octobre dernier, comme vous l'avez dit, octobre 2021, en fait. Donc, ça fait un petit peu plus qu'un an, par le ministre actuel de la Justice, Simon Jolin-Barrette. Donc, c'est de là qu'origine la réforme. Réforme, comme je vous le disais, là, qui est rendue nécessaire parce que bon nombre de dispositions du régime en droit familial québécois ne sont pas en adéquation avec les besoins des familles d'aujourd'hui.
Bon, bien, on comprend hein, à la suite de cette histoire que c'était très nécessaire et que ça a quand même été long avant qu'il y ait du changement. Donc, c'était le temps. Puis justement, c'est que ça a été quoi les changements qui ont été apportés pour essayer de pallier à ces manques-là puis de moderniser un petit peu le régime de droit de la famille?
Bon, pour poursuivre mon histoire, parce que l'histoire finit pas en octobre 2021 avec le dépôt du projet de loi 2. Bon, le projet de loi 2 a fait l'objet de débats en commission parlementaire en décembre dernier, donc en 2021, a fait l'objet de débats entre parlementaires aussi au début de l'année 2022 et par la suite jusqu'à la fin de la session parlementaire du printemps. Et le temps, finalement, a manqué, hein, de telle sorte que, bon, si vous vous intéressez à aller lire le dit projet de loi 2, là, il est très long, il modifie un certain nombre de lois à caractère social, entre autres, qui touchent le droit de la famille, mais pour ce qui est du Code civil, il y a à peu près une cinquantaine de pages dans le projet de loi qui s'y consacrent. Et donc, en mai dernier, les partis de l'opposition se sont mis à faire obstacle à l'adoption du projet de loi tel quel, parce qu'ils trouvaient que c'était trop rapide, parce qu'ils trouvaient que bien que le projet de loi n'était pas une surprise et calqué en grande partie sur le rapport Roy de 2015, que ça n'avait pas fait assez l'objet de débats, qu'on avait besoin de plus de temps, les questions étant fondamentales. Et donc, comme bon, en quelque sorte... brandi, si on veut, la possibilité de faire tomber le projet de loi si le ministre reculait pas et retirait pas un certain nombre de dispositions du projet de loi. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'effectivement, pour sauvegarder ce sur quoi au moins les partis, tout confondus, s'étaient entendus, le ministre a fait un pas en arrière puis a accepté de retirer du projet de loi 2 la vaste majorité des dispositions du Code civil se rapportant à la réforme du droit de la famille. Donc, finalement, on a vidé de son cœur et de son essence le projet de loi 2. Mais on a laissé subsister dans ce projet de loi un certain nombre de dispositions quand même importantes, en particulier en matière de droits des personnes physiques, en lien avec les revendications des personnes trans et non-binaires et en lien avec une décision importante rendue par la Cour supérieure là, en 2021 par le juge Greg Moore dans Center for Gender Advocacy. Donc, le législateur a modifié la loi en fonction des conclusion du juge dans cette décision-là. Il y a une petite portion là, qui est encore en litige et qui est devant la Cour d'appel. Le PG a décidé d'en appeler sur un élément particulier. Mais sinon, donc, le projet de loi a été l'occasion pour le ministre de dire, bon, mais tant qu'à modifier le droit de la famille, je vais aussi ajouter ça. Hein, ça va faire écho à la décision du juge Greg Moore. Puis finalement, bien, c'est essentiellement ce qui a subsisté et ce qui est resté parce que, bon, ça n'a pas fait l'objet de débat houleux. Là, tout le monde était d'accord là-dessus à l'Assemblée nationale. Finalement, le ministre a modifié un certain nombre de choses parce qu'au départ, les groupes de pression n'étaient pas nécessairement satisfaits avec ce qui était incorporé dans le projet de loi, mais à la fin, là, on est arrivé avec une mouture qui convenait à tout le monde. Donc, ce volet-là, que je connais un peu moins, là, a été sauvegardé. Et quelques petites modifications parcellaires du droit de la famille. On peut en noter cinq, si ma mémoire est bonne. Et c'est essentiellement les seules choses qui sont modifiées actuellement en droit de la famille. Là. Donc, depuis le 8 juin, le projet de loi est passé en force de loi. Il a été sanctionné, adopté. Un bon nombre de dispositions sont en vigueur depuis ce moment-là. Il y en a quelques-unes là, qui vont entrer en vigueur dans les prochains mois. Mais voilà, donc on se retrouve finalement avec une réforme plus que parcellaire qui ne touche pas vraiment au cœur du droit de la famille, de telle sorte que le ministre de la Justice s'est engagé au printemps dernier à déposer un nouveau projet de loi s'il était réélu et qui reprendrait finalement les dispositions du projet de loi qui ont été enlevées à la fin. Donc, on attend ce projet de loi. Ce projet de loi n'a pas encore été déposé. Bon, les élections viennent de passer. Ils ont commencé à siéger hier avec ce qu'on sait, le sergent d'armes ne permettant pas aux députés péquistes d'accéder au Salon Bleu. Donc, bon, ils vont siéger pas grand temps avant Noël. Donc, on comprend que ça va aller en 2023, le dépôt de ce projet de loi-là. On n'a pas de raison de penser que le ministre va reculer là-dessus. Là. Je pense que ça s'en vient. Donc, on a hâte de voir ça. On a hâte de voir à quel point ça va reprendre ce que le projet de loi 2 prévoyait ou si ça va bonifier à certains égards. Donc, comme je vous dis, pour l'instant, c'est presque statu quo, sauf à certains égards particuliers. Là.
Puis, ça serait quoi exactement ces petites modifications-là qui ont été apportées par le projet de loi devenu loi modifiée, mettons?
Oui, absolument. Bon, la loi 2, en fait, à quelques petits égards, là, comme vous le venez de le dire, modifie le droit de la famille. Un des éléments quand même d'importance à noter, là, c'est le fait que la présomption de paternité prévue à l'article 525 et 538.3 du Code est étendue au couple en union de fait, ce qui est tout à fait novateur et nouveau. La présomption de paternité a toujours été applicable seulement aux conjoints mariés, aux pères. Et depuis le 8 juin, c'est applicable maintenant aux couples en union de fait. C'est donc dire également que corrélativement à ça, maintenant, ce qui n'était pas le cas jusqu'au 8 juin, les parties qui sont en union de fait à la naissance de leur enfant, l'une des deux parties peut déclarer la naissance de l'enfant pour le compte de l'autre, hein, le faire pour l'autre, ce qui était le cas pour les conjoints mariés, mais pas pour les conjoints de fait. Donc, ça, c'est possible depuis lors. Bon, vous me direz peut-être, bon, qu'est-ce que ça change finalement? Là, chaque personne est capable de déclarer ses affaires elle-même. Oui, mais ça change en particulier dans les contextes les plus tristes où le conjoint qui ne donne pas naissance à l'enfant, malheureusement, meurt de façon inattendue, justement, avant la naissance. C'est arrivé, on a vu des cas dans les médias de ça dans les dernières années. La personne qui a donné naissance à l'enfant, souvent la mère, se retrouvait dans une situation où elle devait entreprendre des procédures légales pour faire reconnaître la paternité de son conjoint décédé trop vite, finalement, à l'égard de l'enfant. Même en présence d'une fratrie, même si tout le monde sait bien que l'enfant était effectivement l'enfant de la personne décédée. Et donc, bien évidemment, là, ça vient avec un niveau de complexité. Entreprendre un recours juridique, bien, c'est du temps, c'est de l'argent. Puis quand on vient de perdre son conjoint et qu'on vient de donner naissance à un enfant, c'est aussi, je ne sais pas, mais je me doute qu'émotivement et psychologiquement, ça ne soit pas, disons, la chose qu'on ait envie de faire. Donc ça, c'est une très belle avancée, puis je pense que c'est une bonne affaire que ça a été modifié. Un autre élément qu'on peut souligner, c'est l'abrogation de l'article 540 du Code, de l'article 540, Maude, si vous vous rappelez, de vos cours de droit de la famille, concernait, puisqu'il est abrogé, la possibilité en matière de procréation assistée que le deuxième parent d'intention, donc celui qui ne porte pas l'enfant, se désengage à la suite de la naissance et renie son projet parental et refuse de faire établir la filiation de l'enfant né avec lui. C'était permis par le Code civil. On disait qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à reconnaître l'enfant. Puis comme il est conjoint de fait, ben, il n'y a pas de présomption. Il n'y en avait pas à l'époque applicable à lui. Donc, on est pris. Tout ce qu'on peut faire, c'est de condamner à une compensation monétaire. Donc, on privait l'enfant finalement de la possibilité de réclamer sa filiation auprès du parent d'intention qui, au départ, a consenti au projet parental, ce qui était une aberration totale et complète et ce que la doctrine a beaucoup dénoncé. Et là, enfin, on s'est débarrassé de ça, donc abrogation de cet article tout à fait justifié là, qu'on doit saluer. Donc ça, c'est un autre élément. Un troisième élément, celui-là, en écho à une décision de la Cour d'appel de 2017, je crois, là, dans droit de la famille 191644, si je ne m'abuse, hein, avec les chiffres, des fois, on ne sait plus c'est laquelle, mais dans cette affaire-là, Maude, vous vous rappelez peut-être, la Cour d'appel sous la plume du juge Vauclair avait rendu un jugement dans un cas où il fallait établir ou pas là, la filiation d'un enfant issu d'une procréation assistée post-mortem. Dans cette affaire-là, là, l'enfant était né de sa mère, des suites des embryons congelés de sa mère et de son père, mais son père étant décédé au moment de l'implantation de l'embryon dans le sein de sa mère. Donc, l'enfant est né 493 jours après le décès de son père et on s'est demandé si on pouvait reconnaître la filiation de l'enfant qui n'était pas biologiquement contestée, là, tout le monde le savait que c'était ça, avec son père et le cadre législatif actuel, bon, ne prévoyait pas de façon précise ce cas de figure hein, qui est dû aux avancées techniques en médecine. Donc, la Cour d'appel a tranché en disant bien, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas appliquer le cadre général dans cette situation-là. Et donc, il n'y a absolument aucun problème quant à la possibilité d'établir la filiation entre l'enfant et son père, même s'il est décédé avant même l'implantation d'embryon. Maintenant, la question que la Cour d'appel a laissée en suspens, c'est en lien avec les droits successoraux de l'enfant par rapport à son père. Est-ce qu'il peut réclamer ou pas sa part dans la succession, puisque au moment de l'ouverture de la succession, il n'était pas conçu ou en tout cas pas né encore, peut-être conçu, ça dépend ce qu'on entend par conçu. Est-ce qu'il était conçu parce qu'il était un embryon congelé ou est-ce que pour être conçu, il faut être implanté dans le sein de sa mère pour éventuellement, au terme de l'article 617 du Code, requérir ou sa part dans une succession? Donc, la Cour a décidé de ne pas répondre à cette question merveilleuse puisque ce n'était pas nécessaire pour une fin du litige. Question quand même fort intéressante, on en convient. Et le législateur donc, a profité de l'adoption de la loi 2 pour apporter une réponse à ça et pour définir ce que constitue pour lui un enfant conçu dans un nouvel article, l'article 34.1. Et le législateur a tranché en disant qu'un enfant conçu, c'est un enfant qui est implanté dans le sein de sa mère. Donc, l'embryon implanté post-mortem ne pourra pas, parce que c'est en vigueur, réclamer des droits de succession dans la succession de son parent prédécédé. Donc, ça, c'est quand même une modification d'importance. Il y a également le volet droit à la connaissance des origines là qui va être enchâssé, c'est pas encore en vigueur, mais dans la Charte québécoise en 2024, en juin 2024, si ma mémoire est bonne. Et dans l'intervalle, on a modifié le Code civil pour ouvrir encore davantage les dossiers d'adoption, l'accès aux dossiers d'adoption, l'accès aux renseignements identificatoires par les parties à l'adoption, parents d'origine et enfants adoptés. Et pour faire en sorte, donc on parachève ici des dispositions qui ont été modifiées récemment là, par la loi 113 en 2018-2019. On parachève donc cette réforme déjà entamée en matière d'adoption en disant, bon, ben, désormais, l'accès au dossier, ce sera maximum aux 18 ans de l'enfant et non plus, comme la loi le prévoyait depuis quelques années, au décès du parent d'origine. Et le parent d'origine aura 30 jours pour décider dorénavant s'il pose un veto à la communication de son identité jusqu'aux 18 ans de l'enfant ou pas, alors qu'auparavant, il avait un an pour prendre cette décision-là. Donc, on ouvre encore davantage les adoptions. Elles sont de moins en moins confidentielles puisqu'on sait que normalement, dans la vaste majorité des cas, l'enfant atteindra 18 ans et donc au plus tard à 18 ans pourra avoir accès à ses renseignements d'identification au nom de ses parents d'origine et ce, y compris pour les adoptions du passé dans la mesure bon, de certaines dispositions transitoires. Là. Je ne veux pas rentrer dans le détail là, là parce que ça peut devenir compliqué. Dernière modification que je peux mentionner, la cinquième, modification à l'article 611 du Code en lien avec les droits des grands-parents. Hein, la disposition jusqu'au mois de juin prévoyait que le parent ne pouvait pas faire obstacle aux relations entre l'enfant et son grand-parent, sauf si des motifs graves le justifiaient. Donc, ce qu'on voyait dans la jurisprudence, c'est même dans des cas où le parent ne parlait plus à son propre parent, donc grand-père et parent ne se parlent plus, des communications avec les petits-enfants étaient permises avec les problèmes que ça peut engendrer. Donc, la disposition a été réécrite pour jeter un éclairage différent et venir préciser que, oui, on va favoriser autant que possible le maintien des relations entre l'enfant et ses grands-parents ou encore le développement de ces relations-là, si elles ne sont pas préexistantes, mais dans la mesure où son intérêt le justifie. Et parfois, on sait que l'intérêt de l'enfant pourrait ne pas le justifier, notamment parce que ça le place dans une situation de conflit de loyauté perpétuelle. Donc ça, c'est une belle avancée au profit des enfants d'abord. Bon, peut-être à la défaveur des grands-parents, mais quand même, je le crois dans l'intérêt de l'enfant. Et on a ajouté, bonifié 611, en ajoutant l'ex-beau-parent. Donc, l'ex-beau-parent, la blonde de papa ou la blonde de maman avec qui j'ai passé une partie de ma vie, qui finalement se sépare de mon parent. J'ai peut-être développé des liens avec cette personne-là. Actuellement, il n'y avait absolument rien dans la loi québécoise là-dessus. Il y a certaines choses dans la loi fédérale sur le divorce, mais pas dans le Code civil. Donc là, maintenant, 611 vient dire, dans la mesure où l'intérêt de l'enfant le commande, oui, il faudrait aussi favoriser le maintien des relations entre l'enfant et son ex-beau-parent. Mais on ajoute un critère, il va falloir que l'ex-beau-parent démontre qu'il y avait une relation préexistante entre lui et cet enfant-là, ce qui n'est pas la même chose pour le grand-parent. Bon, on peut le comprendre, là, ça fait quand même ça. Donc ça, c'est un beau pas dans une bonne direction à la lumière des nouvelles réalités, des recompositions familiales et de ce qu'on sait très bien que les enfants de nos jours ont bien plus qu'un père ou une mère comme personne significative dans leur vie. Hein. Souvent, il y a de nouveaux conjoints qui s'ajoutent, les enfants de ces nouveaux conjoints rejoint toute une famille qui s'ajoute avec ça. Voilà, je pense que c'est une bonne chose et on peut se demander si le ministre va aller encore plus loin quand il va s'interroger sur quels devraient être les droits et les obligations des conjoints. Mais pour l'instant, là, on s'est limité à ça.
Bien, super. Après avoir fait le tour de ces belles nouvelles encourageantes puis ces avancées-là, on va prendre une petite pause. Puis au retour de la pause, on va discuter de ce qui aurait pu être une nouvelle avancée, mais qui n'a pas été adoptée finalement. Donc, un nouveau régime par rapport à la procréation assistée et la gestation pour autrui. Donc, de retour après la pause.
Bienvenue à Versus, tout le monde, donc avec Maud Laprise, l'animatrice, ainsi que la professeure Andréane Malaquette. Donc, pour continuer sur le sujet que nous discutions tout à l'heure, en fait, là, on va discuter un petit peu, Maître Malaquette, de la conférence qui a été donnée cet été dans le cadre du colloque portant sur la filiation en besoin d'assistance, procréation assistée et gestation pour autrui en droit nouveau. En fait, dans le projet de loi 2, là, a été introduit un cadre légal entourant la gestation pour autrui qui aurait contribué à faire respecter les droits de l'enfant, mais aussi ceux de la personne qui lui donne naissance. Ce régime ne fait toutefois pas partie de la loi sanctionnée le 8 juin dernier. Est-ce que ça serait possible, Maître Malaquette, de nous expliquer de manière générale quel aurait été ce nouveau régime?
Oui, tout à fait, avec plaisir. Ça me fera. Je vais vous décrire. Je vais d'abord vous dire que, bon, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on retrouve ce régime, en tout cas, si pas parfaitement identique, en bonne partie identique, dans le prochain projet de loi qui va être déposé. Donc, je pense que ça demeure, votre question là, demeure tout à fait pertinente. On ne parle pas juste de ce qui aurait pu être. Je pense que ça va finir par être à tout le moins en partie. Donc, qu'est-ce que le projet de loi 2 proposait? Là, dispositions qui, comme vous l'avez dit, finalement n'ont pas été mises en vigueur, mais peut-être le seront un jour, ben une véritable révolution en droit de la filiation québécois parce qu'on ouvrait dans ce projet de loi-là à la possibilité d'avoir recours à une gestation pour autrui. On sait que jusqu'à aujourd'hui, la disposition n'a pas été abrogée. Hein, l'article 541 du Code prévoit que les contrats de gestation ou de procréation pour autrui sont nuls de nullité absolue. Donc, ça ne signifie pas que ces contrats sont illégaux. Hein, il n'y a pas de sanctions en droit criminel au Canada à cet égard-là. D'ailleurs, dans les autres provinces, il existe des cadres législatifs sur la gestation pour autrui. Mais ce que ça veut dire ici, c'est que les contrats de gestation pour autrui, si tant est qu'il y a des parties qui s'engagent dans cette voie-là, bien, ces contrats-là ne pourront pas faire à terme force de loi et ne seront pas susceptibles d'exécution forcée devant un tribunal. Donc, à toute fin pratique, ce sont les parties qui décident si, à terme, ça leur plaît toujours de mettre en œuvre ce qu'ils avaient conclu dans leur contrat, entre guillemets, ou pas. Et si ça ne leur tente plus, eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, effectivement, l'idée d'instaurer un cadre législatif en la matière, bien, d'une part, sert à protéger davantage l'enfant hein, qui est issu de cette méthode de procréation assistée, mais aussi les parties en cause, à la fois la personne qui porte l'enfant, mais aussi les parents d'intention. Donc, dans le projet de loi 2, sans grande surprise, là, on a repris pour la majeure partie de ce qui est prévu ce que suggérait le rapport Roy, le rapport du comité consultatif sur le droit de la famille. Si vous vous amusez à faire une comparaison entre ce qu'il y avait dans le projet de loi 2 et le rapport, vous allez trouver que ça se ressemble beaucoup, beaucoup. Bien, c'est tout à fait normal parce que c'est effectivement ce qui a été fait. Donc, deux voies possibles pour la gestation pour autrui, une voie dite administrative et une autre judiciaire, avec un certain nombre de dispositions dans chacun des cas s'appliquent. Donc, des dispositions à caractère général qui s'appliquent tant à la voie administrative que la voie judiciaire, mais aussi des dispositions particulières qui s'appliquent seulement à la voie administrative ou seulement à la voie judiciaire. Donc, quelles sont ces dispositions à caractère général? Là, rapidement, là, ce qu'on prévoit, là, c'est que, ou ce qu'on prévoyait, c'est que la gestation pour autrui était admise dans la mesure où la personne qui porte l'enfant avait au moins 21 ans. donc un âge minimal, et que le projet parental impliquant recours à une gestation pour autrui soit formé avant la conception. Donc, il faut que je m'entende avant la conception, pas après, puis dire « Ah, ben finalement, tiens, donc, je suis enceinte, pourquoi ne pas aller trouver des parents d'intention et leur offrir mon bébé? » C'est pas de même que ça marche. Donc, il faut faire ça avant la conception. Donc, ça, ce sont deux critères fondamentaux. Là, si c'est pas rempli, on peut pas parler de gestation pour autrui. Également, le Code civil, et là, on n'avait pas vraiment le choix, là, parce que c'est de compétence fédérale, ça, là, mais c'est un contrat qui doit être fait à titre gratuit. Hein, c'est-à-dire que, oui, on peut rembourser certains frais déterminés par règlement, là, les frais de consultation de médecin, d'échographie, manquer le travail, maladie, vêtements de grossesse, bon, toutes les belles choses qui viennent avec une grossesse, mais le fait de porter un enfant en tant que tel doit être fait à titre gratuit. Donc, ça, c'est un autre élément fondamental. Et enfin, le cadre général prévoyait que l'établissement de la filiation entre l'enfant et ses parents d'intention aurait lieu à la suite de la naissance de l'enfant, de telle sorte que la personne ayant porté l'enfant ne pouvait consentir qu'à la suite de la naissance. Hein. Un consentement anticipé à la remise de l'enfant ne vaudrait rien. C'est vraiment à la suite de la naissance que ça devient possible de dire « bon, ben OK, on va toujours de l'avant ». Et le législateur prévoyait que ce consentement devait être donné par la personne qui porte l'enfant entre le 8e et le 30e jour de la naissance de l'enfant. Si la personne donne son consentement, parfait, tout va bien, les parents d'intention prennent l'enfant, tout le monde est heureux. Si les choses se compliquent et, comme on dit, si ça tourne au vinaigre rendu là, ben là, il y a différents mécanismes là, que le projet de loi prévoyait. Si les choses vont bien, la filiation à la suite de la remise de l'enfant par la personne qui a porté l'enfant et son consentement est réputée. Donc, une présomption irréfragable établie entre les parents d'intention et l'enfant. Il n'y a pas besoin d'aller devant le tribunal pour faire établir cette filiation. Si tant est qu'on est dans la voie qu'on appelle administrative. Maintenant, pour ce qui est de la voie administrative, justement, dans quelle situation on est dans cette voie-là versus la voie judiciaire, donc qui nous forcerait d'aller devant le tribunal pour faire établir la filiation de l'enfant avec ses parents d'intention, bien, la voie administrative va pouvoir être utilisée si on se conforme à ses conditions préalables. C'est quoi les conditions préalables? C'est rencontrer un professionnel qui va nous informer sur les implications psychosociales de notre projet. Il faut que la personne qui porte l'enfant et les parents d'intention fassent cette rencontre-là de façon séparée. Il faut que, également, la convention de gestation pour autrui soit conclue par acte notarié en minute. Donc, ce sont comme les deux conditions de base. Si je fais ça, je peux utiliser la voie administrative, puis ça va aller beaucoup plus rapidement. Si je ne fais pas ça, ou si finalement, ce n'est pas possible pour X raison, bien, il demeure une voie judiciaire où là, je peux quand même saisir le tribunal pour lui demander d'établir la filiation entre l'enfant et ses parents d'intention. Donc, grosso modo, là, c'est ce que le projet de loi 2 prévoyait. Puis évidemment, il prévoyait aussi des situations particulières. Par exemple, qu'est-ce qui arrive si la mère porteuse décède au moment de la naissance? Je devrais dire la femme qui porte l'enfant, même là, si elle décède au moment de la naissance, si elle disparaît en laissant l'enfant seul, si elle disparaît avec l'enfant, si les parents d'intention n'en veulent plus de l'enfant, qu'est-ce qui arrive, etc. Donc, il y a plusieurs questions particulières aussi là, que le législateur réglait dans ce cadre-là.
Bien, super. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait, mais l'avantage, c'est que probablement, comme vous le dites, que tout ça va être redéposé à nouveau en 2023. Donc, pour les gens qui s'intéressent, ça va être assez facile d'accès pour aller chercher de l'information sur le sujet. Donc, merci beaucoup, professeur Malaquette, d'avoir discuté avec nous aujourd'hui. C'était très apprécié.
Bien, tout le plaisir est pour moi, Maud. J'espère que je n'ai pas parlé trop longtemps.
Non, c'était parfait.
Bien, merci. Là. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée également. Vous venez d'écouter Versus, épisode numéro 2 de la 5e saison. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et l'entrevue avec professeur Andréane Malaquette. Merci beaucoup pour votre écoute. Je m'appelle Maud Laprise et merci à ma co-animatrice Claudia Fortin.
Merci Maud.
Merci également à toute l'équipe du balado. Pour en savoir plus sur la revue, sa publication et toutes les activités qui y sont liées, visitez le usherbrooke.ca. À bientôt pour un autre épisode!